Il est 7h.
On sait qu'un possible confinement nous pend au nez. Hein. Donc oui, y a du soleil, forcément, on va sortir, on va pas se priver. Faut juste faire attention et voilà quoi.
Dernier moment d'insouciance, l'angoisse d'un reconfinement le week-end pour 20 départements sous surveillance renforcée. Certains ont fait le plein de soleil. En Moselle, la frontière n'est pas fermée, mais l'Allemagne a durci le ton. Dès demain, il faudra présenter un test négatif de moins de 48 heures pour traverser la frontière. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Le parquet a demandé 4 ans de prison contre l'ancien chef de l'État. Et puis, les femmes enfilent le tablier, mais pas n'importe lequel. Celui du boucher. La profession se féminise. Après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Avant le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. On va parler de Viktor Orban qui s'est fait vacciner hier avec le Sinopharm chinois et de son homologue à Prague qui commande à Vladimir Poutine lui-même des Sputnik 5. Deux vaccins toujours pas approuvés par l'Agence européenne de santé.
Et puis l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Marseille sera toujours Marseille après la mise à l'écart du président Jacques-Henri Hérault. L'OM a une chance de retrouver son identité.
Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous, Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dernière ligne droite pour les 20 départements en surveillance renforcée. Leur sort doit se jouer cette semaine.
Avec notamment à la clé la possibilité de reconfinements locaux à l'image de ce qui s'est fait à Nice et à Dunkerque ce week-end. Avec le retour des attestations pour chaque sortie, certains en ont profité pour prendre l'air comme si c'était leur dernier week-end de liberté. C'est ce qu'a pu constater Nicolas Feldman.
Il règne comme un air de printemps sous le ciel de Paris, au bord de l'eau, des quais bondés. Pas facile de trouver un coin de bitume disponible.
Il ne reste plus trop de place pour s'asseoir et on a l'impression d'être sans Covid, quoi. Et ça fait du bien.
Ça fait beaucoup de bien. Ouais.
Un peu plus loin, Élise et Lou partagent une bière. Peut-être la dernière, redoute-t-elle avant un moment.
Bah, on sait qu'un possible confinement nous pend au nez. Hein. On nous laisse en suspens depuis des semaines. On avait commencé avec un couvre-feu à 18h qui devait durer 2 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de nouvelles. Donc y a du soleil, forcément. On va sortir, on va pas se priver. Faut juste faire attention et voilà quoi.
Mais une autre menace plane, celle de voir les quais fermés comme à Toulouse. La question est sur toutes les lèvres. Cela ne résoudra rien, estime Adeline.
Fermer les quais, ce serait déporter le problème ailleurs parce que si on se retrouve pas ici, on se retrouvera dans des parcs ou dans les apparts. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Les gens trouveront une solution pour faire autre chose, quoi.
Pour ses amis, cela veut donc dire anticiper, sortir de Paris dès le week-end prochain pour aller se mettre au vert à la campagne.
Sans attendre de nouvelles mesures, la police est intervenue pour vider des quais trop remplis à certains endroits. Et puis à Toulouse, effectivement, la mesure a été encore plus radicale puisque les quais de la Garonne pris d'assaut samedi ont été fermés dès hier par les autorités.
Alors pour la Moselle, en revanche, le couperet est tombé hier soir.
L'Allemagne a classé le département en zone rouge, conséquence immédiate. Il faudra dès demain présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour passer la frontière. Les autorités françaises et allemandes ont négocié de pied ferme depuis plusieurs jours, Hélène Kohl.
Vu de Berlin, la France bénéficie d'un traitement de faveur, contrairement à ce qui se passe aux frontières avec la République tchèque et le Tyrol. Demain, il n'y aura pas de barrage de police, on pourra continuer de circuler librement entre les deux pays, à condition de prouver que l'on n'est pas porteur du virus. Un test antigénique suffira, ça aussi c'est une concession aux règles imposées normalement, qui exige un test PCR quand une zone est classée à très haut risque. Cela permettra aux travailleurs frontaliers de se faire dépister plus rapidement et aussi sur leur lieu de travail. La SAR a distribué 100 000 kits de tests aux entreprises de la région. Les élus locaux, français et allemands, espèrent encore réussir à faire plier Berlin aujourd'hui sur d'autres points, par exemple pour obtenir que les travailleurs ne soient testés qu'une fois par semaine, et pas toutes les 48 heures. Même chose pour les familles à cheval entre les deux pays. Mais Berlin doit aussi jongler avec la colère d'un autre de ses partenaires, l'Autriche, qui ne comprend pas pourquoi la France obtient ainsi des passe-droits alors que rien n'est fait pour soulager l'engorgement à la frontière avec le Tyrol. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Les tests salivaires dans les écoles. Après la zone A, l'opération se poursuit ce matin pour les élèves d'Île-de-France, de Montpellier et de Toulouse qui rentrent de vacances.
C'est un dispositif qui va effectivement s'intensifier cette semaine, d'autant que l'opération qui a eu lieu toute la semaine dernière à Saint-Étienne a donné plutôt des bons résultats. Jean-Luc Boujon.
Au total, ce sont 950 tests salivaires qui ont été pratiqués la semaine dernière dans 6 collèges et 2 écoles primaires de la ville. Une opération qui a permis de détecter 3 cas positifs, tous asymptomatiques, qui ont immédiatement été isolés. Le principal enseignement de ces tests salivaires, c'est que les élèves et leurs parents ont adhéré à la méthode, explique Dominique Poggioli, inspecteur d'Académie de la Loire.
On a été surpris, par exemple, sur une école, on était parti sur 60 ou 70 comme d'habitude, et là on est monté tout de suite à 92. Ou sur une autre école, on s'attendait à 20% qui répondent, et là on est monté à 40%. Donc manifestement, le test salivaire permet peut-être de tester un petit peu plus.
Effectivement, le principe du crachat dans une pipette effraie moins, confirme Anne Magali, dont le fils collégien en 4e a été testé la semaine dernière.
Lui, au début, il était assez réticent parce qu'il n'avait pas envie de refaire un test avec les couvillons dans le nez. On avait fait plusieurs, il n'avait pas aimé du tout. Donc là, le fait que je lui ai dit que c'était un test où il y avait juste à cracher dans un tube, il était plus enclin à le faire.
Et alors, après coup, qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Après coup, il a trouvé que c'était simple. Ça l'a pas perturbé outre mesure.
Voilà, donc bilan positif pour cette opération qui va encore monter en puissance cette semaine dans la Loire avec encore plus d'écoles testées. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
7h06 sur Europe 1. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort dans l'affaire dite des écoutes.
Décision à 13h30 à Paris dans un dossier où l'ancien président de la République est soupçonné de corruption et de trafic d'influence. Le parquet national financier a requis 4 ans de prison dont 2 fermes. Et pourtant, Guillaume Bié, Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence, y compris lors du procès.
Oui, serein, c'était l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy à la sortie de l'audience il y a 3 mois. D'après son entourage, l'ancien chef de l'État a été satisfait d'avoir pu s'exprimer pleinement lors de son procès et démontrer la vacuité de l'accusation. Un désert de preuves, avait souligné son avocate Jacqueline Lafont, qui avait plaidé la relaxe de l'ex-président. Épaulé tour à tour dans la salle par ses fils et son épouse, c'est un Nicolas Sarkozy offensif qui s'était défendu durant des heures à la barre, n'hésitant pas à rejouer les conversations captées sur écoute pour mieux démontrer l'absence d'un quelconque pacte de corruption. C'est pourtant la thèse soutenue par les deux magistrats du parquet national financier. Pour eux, il y avait bien une contrepartie, la promesse d'un coup de pouce pour la nomination de Gilbert Azibert à Monaco. Et même si ça ne s'est jamais concrétisé, cette simple promesse clairement formulée suffit, d'après eux, à caractériser l'infraction. Ma vie a été de donner des coups de pouce pendant 40 ans de vie politique. C'était tout simplement justifié, Nicolas Sarkozy.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
Carlos Ghosn affirme avoir été lâché par la France. L'ex-PDG de Renault-Nissan s'est exprimé à l'occasion de son nouveau livre à apparaître mercredi.
Il s'est exprimé en exclusivité sur Europe 1 sur ce livre coécrit avec Carole, sa femme. L'homme d'affaires s'était, souvenez-vous, enfui du Japon après avoir été interpellé et inculpé d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance. Et dans ce livre, Carlos Ghosn clame son innocence. Il reproche aussi à la France de n'être pas venue à son secours. Il s'est donc confié hier matin au micro d'Europe 1 à Frédéric Taddeï.
J'ai appris par ailleurs que le jour de mon arrestation, l'ambassadeur des États-Unis au Japon a communiqué à l'ambassadeur de France au Japon en disant si M. Ghosn était le patron de General Motors, il ne serait pas resté arrêté 24 heures, on l'aurait rapatrié aux États-Unis et si vraiment il y a des problèmes, à ce moment-là, on en discute dans son pays.
Une version qui laisse pourtant l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, extrêmement dubitatif.
On ne voit pas pourquoi un ambassadeur des États-Unis irait se vanter comme un gosse de 15 ans. Sauf si l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo est vraiment un aventurier bavard, ça me semble plutôt peu probable. Je n'en vois pas l'intérêt et j'en vois les risques d'être répété, d'être cité et il s'aliénerait ainsi les Japonais. Tout cela, pour moi, ça fait vraiment très français, et notamment réduire la justice à des arrangements politiques. Vous savez, quand j'ai été ambassadeur, il m'est arrivé à plusieurs reprises que des nationaux français aient des problèmes avec la justice locale. Et à chaque fois, j'étais frappé d'être approché par des amis ou par l'avocat de la personne en question pour me dire « naturellement, vous allez le faire sortir de prison ou le faire rentrer en France ». Et ils étaient toujours surpris que je leur dise « mais attendez, la justice de ce pays est une justice indépendante. Personne ne peut le faire, même pas les autorités locales. Et si j'intervenais, ça risquerait d'être plutôt contre-productif. »
Propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1.
Qui a dit que la boucherie était un métier d'homme ?
Bah, il faut dire que majoritairement, c'est souvent monsieur couteau à la main et madame à la caisse. Mais c'est en train de changer. La profession se féminise. Pour preuve, la finale du concours national des meilleurs apprentis de France, catégorie charcutier-traiteur, compte 2 femmes parmi les 20 concurrents. Et ce qui est certain, c'est qu'une femme dans une boucherie, eh bien, ça se remarque. Reportage à Paris avec Damien Mestre qui a rencontré une jeune bouchère de 23 ans.
Dès qu'il y a un nouveau client, on s'en rend compte parce qu'il me dit « Ah, une femme !» Et du coup, je suis « Ah, vous êtes nouveau client !»
Derrière son étal, Lucie prépare tranquillement un filet de veau. Effectivement, les femmes sont rares à ce poste, un constat que la jeune bouchère ne comprend pas vraiment.
On peut tous faire le métier, hein. C'est pas si difficile que ça de prendre une carcasse, de la désosser correctement.
La profession n'est plus aussi physique qu'avant, c'est ce qui laisse la place aux femmes, selon elle. Alors, en arrivant dans l'entreprise, c'est une conversation franche qu'elle a eue avec l'employeur.
S'il a des choses à me dire sur mon comportement, il me les dit. S'il a quelque chose à me dire sur mon travail, il me le dit. Parce que après, si on est trop chouchouté tout ça par le patron, les gens ils disent « Ah ouais, elle est valorisée dans le fait que ce soit une femme, etc. » Alors que non, moi je veux être comme les autres.
Les lignes semblent bouger donc, en tout cas au sein d'une nouvelle génération de bouchers, à l'image de son collègue Enzo, 22 ans.
Je vais pas faire de blagues lourdes auprès d'une fille, surtout pas, j'ai du respect pour ça. Et justement, des jeunes bouchers comme ça, c'est ce qui va faire changer la vision du boucher un peu beauf, un peu ancien. Elles sont la bienvenue et il n'y a aucun problème pour bosser, quoi.
Un changement qui prend du temps quand même. Dans sa classe, sur 40 apprentis, Lucie était la seule et unique femme.
Reportage Damien Mestre. Et puis les derniers résultats de la 27e journée de Ligue 1. Marseille a arraché le nul un but partout face à Lyon qui glisse à la 3e place. Quant à Lille, il reste leader malgré un nul face à Strasbourg. Un but partout également.
Merci beaucoup Chloé Triomphe. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.